entourait la ville de Paris, qu'il chérissait, d'un superbe mur garni de tourelles et de portes. Extrait du chroniqueur Rigord, à propos des travaux d'urbanisme à Paris, par le roi Philippe Auguste.
Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau.
À l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques cet été, le Louvre a été mis en valeur, puisque les bateaux des diverses délégations sont passés devant le château qui avait servi de résidence royale. Aussi m'est venue l'idée de vous proposer une chronique sur les origines de la forteresse du Louvre, puisqu'évidemment, ce que nous voyons aujourd'hui doit beaucoup à Napoléon III et à Louis XIV, sans parler de la pyramide inaugurée par François Mitterrand. Ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, ce sont les origines du Louvre à l'époque de Philippe Auguste, c'est-à-dire à l'extrême fin du XIIe siècle et tout début du XIIIe. D'abord, une remarque sur le terme « Louvre ». Cela viendrait de « loupara », qui désignait un lieu-dit où se trouvait probablement une louveterie. Cette louveterie accueillait des bâtiments qui servaient de point d'appui aux chasseurs de loups qui étaient chargés de protéger la ville de Paris, car les loups étaient relativement nombreux dans les campagnes de l'Île-de-France. Et donc c'est à cet endroit que Philippe Auguste va décider de construire ce qui va devenir le palais du Louvre. D'abord, il faut remarquer qu'en 1190, il avait pris, au moment où il partait en croisade, une série de documents et de décisions. D'abord, une ordonnance qui instituait les baillis, qui devaient représenter le pouvoir royal dans les provinces. Également, il avait confié la garde du trésor aux Templiers de Paris. Et puis ensuite, il avait également décidé de faire construire une grande enceinte pour protéger la capitale, parce que finalement Paris était quelque peu sans défense au cas où la dynastie des Plantagenets avait l'intention d'essayer de porter un coup à Paris. Et donc il avait ordonné l'édification d'un mur de 2 km et 600 mètres, de 2 km 6, qui était donc le point de départ d'une œuvre de fortification de la capitale. Revenant de croisade, en 1191, Philippe Auguste lance la décision de construire un château et une grande tour, ce sera donc le Louvre. Il y a effectivement une volonté qui est sans doute multiple. D'abord, il a fallu trouver le terrain. Ce terrain se situe plutôt dans l'ouest de la capitale de la fin du XIIe siècle, et il y a donc eu une expropriation. On sait que les personnes expropriées pour le chantier ont été d'ailleurs indemnisées. Ce fut le cas, par exemple, de l'évêque de Paris ou des moines de Saint-Denis de la Chartre qui avaient obtenu une rente de remboursement en remboursement des terres qui avaient été données pour le chantier. Le premier élément qui est marquant dans le chantier du Louvre, c'est la tour maîtresse, d'un diamètre de 15,7 m et d'une hauteur d'environ 31 m, au-dessus de laquelle va être également édifiée une toiture. Donc, il y a indéniablement un monument important qui voit le jour à ce moment-là. Il faut s'interroger aussi sur les questions du pourquoi. D'abord, il y a sans doute la volonté de défendre Paris. Effectivement, les entreprises des Plantagenets, représentées à l'époque par Richard Cœur de Lion, peuvent faire craindre, éventuellement, en cas de conflit majeur, une expédition menée contre Paris. Donc la nouvelle forteresse serait bien utile pour la défense. Ensuite, il y a un autre élément qui a joué, c'est peut-être la réponse de la construction de l'immense château Gaillard. Richard Cœur de Lion avait fait effectivement édifier une immense forteresse sur la Seine, et le Louvre était un peu le pendant de la forteresse de Château Gaillard, et ainsi les monarques anglais et français menaient une espèce de concurrence dans la construction de ces grands châteaux. Autre élément qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la volonté par la construction de la part du monarque de montrer la place de la monarchie dans la capitale. Et effectivement, le château, avec sa grande tour, devient un élément extrêmement important du paysage urbain de cette capitale. Et d'ailleurs, la capitale est sans doute à l'époque une des plus grandes villes de l'Europe occidentale, puisqu'elle est aux alentours sans doute des 100 000 habitants. Et donc, le Louvre devient, à la fin du XIIe siècle, un véritable symbole de la monarchie française. Au début du XIIIe siècle, l'aspect défensif en cas d'attaque anglaise était quelque peu tombé en désuétude. En effet, Philippe Auguste remporte des succès indéniables avec la prise de Château-Gaillard en 1204 et puis en 1214, la célèbre bataille de Bouvines, étudiée entre autres par Georges Duby et qui avait fait du monarque français sans doute le souverain le plus puissant de l'Occident chrétien. Par contre, le Louvre, si la forteresse perd quelque peu de son intérêt, en tout cas dans l'immédiat sur le plan défensif, va devenir un véritable modèle. Elle est la matrice de châteaux géométriques avec cour carrée, une tour ronde centrale, qui vont se développer à partir du début du XIIIe siècle. Ainsi, le Louvre marque, comme l'indique l'historien Fabien Paquet, une véritable standardisation castrale. Effectivement, des grands seigneurs, un peu partout dans le royaume, vont se doter de châteaux copiés quelque peu sur le Louvre. D'autre part, il faut voir aussi que la fonction militaire du Louvre, si elle est au début du XIIIe siècle quelque peu tombée en désuétude, va tout de même rester extrêmement importante au moment où, plus tard, la guerre de Cent Ans va éclater. Ce sera un élément éventuel de la défense de la capitale. Donc, véritablement, Philippe Auguste lance un très grand chantier que ses successeurs vont progressivement poursuivre. C'est sous Charles V que la forteresse médiévale va devenir un véritable palais. Le roi Valois va donc étendre la forteresse du Louvre. Elle devient un élément plus luxueux, même si l'austère tour de Philippe Auguste avait été déjà transformée et avait accueilli une bibliothèque royale où le roi aimait à se retirer pour méditer et lire. Il y a donc également un autre élément qui était symbolique du Louvre, c'était la construction d'un grand escalier appelé la Grande Vis et qui avait été dessiné par un des grands architectes de l'époque, Raymond du Temple. Cette réalisation, comme d'ailleurs l'ensemble du palais du Louvre, était fait pour célébrer la dynastie capétienne et en faire un lieu extrêmement important de ce cérémonial de cour que, par exemple, la poétesse Christine de Pisan avait souligné dans sa description qu'elle a eu l'occasion de faire de cet imposant palais. L'escalier de Vis a disparu aujourd'hui. En effet, c'est sous Louis XIII qu'il a été abattu. Et il est vrai qu'au XVIIe siècle, Louis XIII et Louis XIV ont véritablement modifié la structure du palais, sans compter la grande façade classique en face de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, qui avait été édifié sous Louis XV. Donc le Louvre a connu bien des mutations. Il n'en reste pas moins vrai que encore aujourd'hui, grâce aux fouilles archéologiques qui ont été menées, on a retrouvé les soubassements de la tour de Philippe Auguste, et celle-ci est visible pour les visiteurs qui viennent voir un des plus beaux musées du monde, puisque à partir de 1794, la Révolution avait fait du Louvre un lieu d'exposition des œuvres d'art. Vous l'avez compris, Philippe Auguste a inauguré une forteresse destinée à marquer la capitale, et encore aujourd'hui, malgré et grâce aux diverses transformations au cours des siècles, le Louvre est bien emblématique de la ville de Paris.